Bonjour à tout le monde. Voilà, donc je suis Claire Mestre, je suis psychiatre, présidente de l'association MANA. Et voilà, nous sommes heureux d'accueillir Marie-Rose Moreau, dont je vais vous parler un peu plus longuement, hein, qui nous fait l'honneur de venir, qui vient, je dirais, régulièrement sur Bordeaux. Hein, il y a des liens affectifs, je dirais, entre Paris et Bordeaux par le biais de ce que nous appelons la clinique transculturelle. On vous expliquera un petit peu pour ceux qui ne savent pas. Et avant d'aborder donc la raison pour laquelle Marie-Rose Moreau est venue, hein, nos enfants demain pour une société multiculturelle, je voudrais vous dire quelques mots d'elle. Alors, Marie-Rose Moreau est psychiatre, professeure en psychiatrie, elle a, je dirais, cheminé, elle marche 10 fois plus vite que les autres, c'est la particularité de Marie-Rose, elle marche très vite et elle pense très vite. Et en plus de 20 ans de carrière, elle a fait énormément de choses. En partant, alors je ne vais pas reprendre le cheminement, mais en tous les cas, partant de sa ville, Nancy, hein, pour aller jusqu'à Paris, Bobigny. Et à Bobigny, elle a fondé un service, en tous les cas une pratique qu'on appelle transculturelle, hein, qui s'adresse donc aux populations migrantes, aux familles et aux enfants. Un service qui a formé énormément de médecins, de psychologues et bien d'autres professionnels. Et puis, elle a été appelée à aller à la Maison de Solène. La Maison de Solène, pour ceux qui connaissent, c'est en plein cœur de Paris, hein, dans une espèce de bâtisse en verre impressionnante. Et ça a été l'occasion, je pense, pour Marie-Rose Moreau de faire migrer, alors du coup, cette clinique-là non plus du centre vers les périphéries, mais tout le contraire, des périphéries des villes, donc de Bobigny jusqu'à Paris, et là, d'initier la clinique transculturelle, c'est-à-dire d'accueillir des populations migrantes, et aussi de créer une consultation, la consultation de l'adoption internationale. Voilà. Donc ça, c'est un des aspects des choses. L'autre aspect qui est important aussi, c'est que Marie-Rose Moreau est depuis très longtemps, donc depuis le début, à Médecins sans frontières, et qu'elle a là aussi initié une pratique transculturelle, c'est-à-dire de soins psychologiques aux populations auxquelles les équipes viennent en aide, donc dans tous les coins du monde. Enfin, pour, je dirais, illustrer toutes ses recherches et tous les professionnels qui travaillent avec elle, il y a la revue L'Autre, hein, que vous trouvez d'ailleurs à Mola, hein. La revue L'Autre qui s'appelle Clinique, Culture et Société, et qui a l'ambition de parler justement de cette pratique-là, de ce que nous écoutons, de ce que nous entendons auprès des populations migrantes, et qui veut aussi un carrefour des sciences humaines. Hein, donc, c'est-à-dire que les anthropologues, les sociologues, les philosophes, les historiens aussi sont appelés, je dirais, à dialoguer avec nous, cliniciens. Voilà. Alors, pour en venir au vif, je dirais, du sujet, hein, nos enfants demain, pour une société multiculturelle, d'abord, je dirais que c'est la deuxième fois que Marie-Rose publie chez Odile Jacob. Je dirais que c'est quand même un tour de force. Ça illustre bien ce que je vous disais, c'est-à-dire que Marie-Rose Moreau marche vite et pense vite. Et donc, elle écrit beaucoup, elle écrit, je pense, tous les jours. On lui demandera quand même comment elle fait pour écrire autant. Et c'est un livre qui arrive quand même dans un contexte, je dirais, un peu particulier en France, hein, où on parle beaucoup d'identité nationale. Donc, on le lit aussi en ayant, je dirais, comme toile de fond, toutes les questions qui ont résonné dans les médias et entre nous sur la question de l'identité nationale. On sera attiré aussi par le titre, par la question de multiculturelle, société multiculturelle. Ça ressemble à un projet de société, peut-être un projet politique. On lui posera également la question de ce qu'elle veut dire. En tous les cas, ce qui est particulier dans ce livre et très intéressant, c'est que le point de départ n'est pas une étude sociologique, justement une étude anthropologique, mais une étude clinique, c'est-à-dire à partir de ce qui se dit dans les consultations, mais aussi dans d'autres lieux, l'école notamment, Marie-Rose Moreau reprend, hein, je dirais inlassablement, certaines choses qu'elle a déjà dites dans d'autres livres, et puis elle avance aussi pour avancer, pour proposer aussi, pour faire des vraies propositions donc, qui concernent tout le monde. Donc c'est un espèce de Paris, c'est-à-dire de passer de la clinique au politique, dans le sens de vivre ensemble, à comment vivre ensemble, à partir de ce que nous disent les populations migrantes et particulièrement les enfants de migrants. C'est là aussi une particularité de Marie-Rose Moreau, c'est d'avoir particulièrement étudié, je dirais analysé, écouté ce que disent les enfants de migrants. Alors, bien sûr, écouter les enfants de migrants, c'est aussi savoir comment nous les accueillons, hein, comment nous les accueillons et comment ils vont faire pour vivre dans notre société. Et avant, enfin, quand on pense aux enfants de migrants, on pense aussi à leurs parents. C'est-à-dire qu'il y a toute une histoire derrière l'enfance, je dirais, derrière leur enfance. Il y a aussi le trajet migratoire des parents. Et donc, le trajet migratoire, la façon dont on va vivre dans la société d'accueil, dépend aussi de l'accueil que nous leur faisons. Et là aussi, c'est important de bien mettre, je dirais, en interaction les processus de la migration. Qu'est-ce qui se passe quand on migre, d'un point de vue bien sûr sociologique, anthropologique, mais surtout psychologique, mais que ces processus-là sont en résonance, sont en interaction avec la façon dont la société va accueillir. Alors, dans ce livre, Marie-Rose Moreau reprend, donc, comme je vous disais, des choses qu'elle avait déjà dites hein, à propos des bébés, à propos des enfants, à propos des adolescents, hein, puisque nous avons affaire à une pédopsychiatre. Hein. Mais je dirais qu'elle creuse, hein, c'est un travail inlassable, mais qui creuse la question. Et je pense que ce qu'il y a de vraiment nouveau dans sa pensée, c'est la question de la langue notamment. Hein, je dirais, c'est ce qui m'a frappée, hein, outre le fait qu'elle redit hein, l'importance de bien accueillir d'abord ces personnes, d'être attentif à leur façon de faire avec leurs enfants, avec leurs tout-petits par exemple. Elle met l'accent sur quelque chose qui là aussi est en même temps quelque chose qui est très d'actualité et en même temps quelque chose qui me semble être très politique, c'est-à-dire la langue, j'y viens, c'est-à-dire que nous dit Marie-Rose Moreau. D'abord, je dirais qu'elle renverse certains préjugés que l'on peut avoir au niveau de la langue. C'est-à-dire qu'il y a une idée sous-jacente dans notre façon d'accueillir les autres. Cette idée-là dit que pour être français, il faudrait se dénuder, il faudrait s'arracher à ce que l'on a été autrefois ou ce que nos ancêtres nous ont transmis. Hein. C'est-à-dire qu'il faudrait, et notamment au niveau de la langue, il faudrait par exemple parler parfaitement le français. Et c'est un impératif qui, certes, est pour les enfants de migrants, ça encore on peut le comprendre, mais qui est aussi pour les parents. Et donc le prix à payer pour être français serait donc la question pour moi de se dénuder. Or, Marie-Rose Moreau nous dit que, à la lumière donc de la clinique et des enfants, que justement il y a peut-être une autre façon de voir les choses. Il y a peut-être une autre façon. C'est-à-dire que on peut à vivre bien, je dirais, s'intégrer dans la société française, mais que en effet, il y a des fragilités, des vulnérabilités qui peuvent se transformer en des potentialités exceptionnelles. Alors, par rapport à la langue, ça donne quoi? Ça donne une revendication, je dirais, moi je le prends comme ça, pour, en tout cas, une défense du bilinguisme. C'est-à-dire, pourquoi ne pas accepter, au fond, que les populations migrantes qui viennent donc d'ailleurs, elles puissent garder hein, comme un habitus, comme une habitude et comme une pratique quotidienne leur langue, et aussi la transmettre à leurs enfants, de telle sorte que leurs enfants puissent être bilingues, c'est-à-dire garder l'habitude de parler la langue de leurs parents et apprendre la nôtre. Ce bilinguisme mettrait en évidence toute la potentialité exceptionnelle que l'on peut trouver chez des personnes qui ont fait le pari de venir s'installer en France. Alors, ça pose bien sûr d'autres types de questions, hein, notamment des questions, si, je dirais, entre guillemets, plus scientifiques, c'est-à-dire qu'on a longtemps pensé que le fait d'être entre deux langues était au contraire quelque chose de l'ordre d'une barrière, hein, on l'a pensé comme ça. Or, le langage, le discours que tient Marie-Rose Moreau, c'est non, attention, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas apprendre le français si on n'apprend pas bien d'abord sa langue maternelle. Alors, quand on parle de bilinguisme, on entend bien qu'il y a deux langues, mais on se demande aussi pourquoi c'est si difficile à accepter cette question-là. Pourquoi c'est si difficile ? Parce que, au fond, et ça sera aussi un autre apport de ce livre-là, c'est que, justement, on a une façon de penser la langue d'une façon hiérarchique. C'est-à-dire qu'on accepte très bien de pouvoir penser que nos enfants seraient bilingues en français et en anglais, par exemple, en français et en allemand, en français et en espagnol. Mais il nous est beaucoup plus difficile d'admettre que les enfants de migrants puissent parler le wolof et l'arabe. Et le français, ou plutôt l'arabe et le français, le wolof et le français, ou alors le bambara et le français. Parce qu'effectivement, on peut penser que le wolof, l'arabe ou le bambara, eh ben c'était comme le breton autrefois, c'est-à-dire une langue mineure. Hein. Et que donc, justement, le fait de penser que non, justement, c'est une langue, ce sont des langues qui sont porteuses de sens, d'affect, d'intelligence, je dirais, au même titre que le français, est une réelle difficulté parce que ça fait appel à des choses beaucoup plus profonde en nous et notamment des notions historiques. Bon, si on a s'il y a des questions ou si vous voulez qu'on en parle, on creusera cette question de pourquoi c'est si difficile à admettre. En tous les cas, concrètement, cet appel au bilinguisme permettrait probablement de sortir certains enfants sur le plan clinique d'impasse en tous les cas et d'échecs notamment sur le plan scolaire. Alors, je dirais que à la limite, je m'en arrêterai là. Hein, pourquoi ? Parce que d'abord, je voudrais que vous entendiez Marie-Rose Moreau répondre, alors peut-être pas tant à mes commentaires, mais à certaines questions que je vais lui poser. Et puis, on attend d'elle qu'elle redéveloppe sa pensée. Bon, d'abord, première question, je vais reprendre pourquoi ce titre ? Pourquoi ce titre ? Pourquoi une connotation particulière ? Pourquoi avoir axé tant cette question du livre aussi sur les questions de langue ? D'où ça vient ? Et est-ce qu'elle peut nous raconter cela, Marie-Rose ? Et dernière question, et ben voilà, quel est le message, au fond, que tu nous ferais passer pour notre société ? À quelle révolution ça fait appel ? Parce que je pense que si on admettait ce qui pourrait devenir une évidence, c'est-à-dire qu'on mettrait l'accent sur les potentialités des enfants de migrants, eh bien, ça changerait aussi nos façons de le voir et peut-être aussi des façons de se comporter dans nos sociétés. Voilà, donc c'est trois questions qui sont des grosses questions, je dirais. Mais je te passe la parole et je te demande de nous éclairer.
Merci infiniment, Claire, d'avoir, comme tous les bons traducteurs, traduit, non seulement traduit ma pensée, mais tu y as amené tes propres ingrédients et c'est extrêmement agréable et c'est un honneur d'entendre ces idées ici à Bordeaux, traduites par toi. Et à Bordeaux, effectivement, Claire disait que Bordeaux est un lieu très fécond sur le plan transculturel ces dernières années, en particulier grâce à toi, Claire, et à ton équipe. Je pense particulièrement, je la vois plus, mais Aïcha Lagdira, ah voilà, elle est là, et toute ta belle équipe. Et puis il y a plein d'idées. Il y a aussi le travail de Patrick Fermi qui est très actif sur ces questions transculturelles, et qui les transmet sur le plan dans le monde entier. Et il y a plein d'idées. Peut-être c'est lié à l'histoire de Bordeaux, hein, qui est en train de transformer toute cette histoire en une créativité nouvelle, comme la ville. En tout cas, moi, je suis ravie d'être là avec vous pour effectivement parler de ces choses qui me tiennent à cœur. Et je voudrais juste souligner, avant de répondre à tes trois questions, j'en ai pour... je pourrais rester avec vous longtemps hein, avec ces trois questions, mais je vais y répondre directement. Mais juste avant, te remercier d'avoir souligné d'abord mon intérêt et mon va-et-vient peut-être entre la notion de soin, parce que moi je suis d'abord... quelqu'un qui a une passion pour le soin, pour une, mon maître Lebovici disait une guérisseuse. Je suis guérisseur, il disait. Ben moi, si je pouvais être une petite guérisseuse, j'adorerais ça. C'est vraiment quelque chose de très important pour moi. C'est le fait que les idées qu'on arrive à mettre en évidence, à trouver, à découvrir, ça puisse aider en particulier les enfants, tous les enfants, et tout particulièrement les enfants qui traversent des mondes, comme les enfants migrants, les enfants de l'adoption, les enfants qui grandissent dans un autre monde que leurs parents, les enfants qui changent de langue, les enfants qui changent de famille, tous ces enfants qui passent d'une logique à une autre. Donc ce goût du soin s'articule avec un goût de l'écriture. J'ai besoin d'écrire. Oui, j'écris tous les jours. Quand j'écris pas, il me manque quelque chose. Comme pour ordonner, puis pour aussi donner une forme, en fait, à cette beauté du quotidien. Parce que quand on travaille avec les enfants de migrants, moi, je me dis régulièrement, quand je suis chanceuse, c'est-à-dire d'entendre les paroles de ces enfants, de voir leur changement, celle de leurs parents, ça donne une sorte de force vitale, qui est sans doute la force comme ça de la construction, de la reconstruction, de la vie parfois difficile, mais de la vie qu'on construit. Donc c'est je crois que c'est une de mes premières motivations. Et le deuxième point que tu as souligné qui m'honore beaucoup aussi, c'est cette idée de passer régulièrement des marges au centre et du centre aux marges pour ne pas que ces idées transculturelles soit confinée à des initiés ou à des gens aux marges, mais que ça appartienne à tous, d'où le titre d'ailleurs de Nos enfants demain, parce que moi je pense que les enfants de migrants sont le travail qu'ont à faire ces enfants-là. C'est comme les enfants de l'adoption ou les enfants qui changent de langue, comme je disais tout à l'heure, c'est un travail qui demain, aujourd'hui déjà et encore plus demain, appartiendra à tous les enfants, c'est-à-dire le fait de se construire dans un monde qui bouge, dans un monde qui se transforme avec des logiques lorsqu'on passe d'une famille dans les familles recomposées, lorsqu'on passe d'un endroit à l'autre, il faut apprendre à se construire sur une sorte de processus dynamique, et ça je crois que ça appartiendra et ça appartient en partie déjà à de nombreux enfants. Et le dernier point là-dessus, c'est effectivement toutes ces idées-là, c'est aussi contenu dans le titre, de le faire à partir d'histoires, c'est-à-dire, ça me permet de répondre à la première question sur le titre, donc de raconter des histoires de rencontres, de rencontres avec ses enfants, avec les professionnels qui s'occupent d'eux, avec tous ceux qui ont une fonction avec ses enfants. Et je pense que le faire sous forme d'histoire, de montrer aussi, parce que moi je tiens beaucoup au fait qu'on ne renonce pas. Qu'on renonce pas à soigner, qu'on renonce pas à éduquer les enfants à l'école, à leur transmettre le goût de construire. Et pour ça, il faut qu'on soit affecté. Il faut que les histoires, elles rentrent à l'intérieur de nous et elles nous fassent quelque chose, une émotion, une idée, une manière de soigner ensuite. Donc, dans ce livre, j'ai fait, là, comme dans tous les derniers livres, j'ai vraiment raconté des histoires. Parfois, j'ai mis ensemble des histoires qui appartenaient à plusieurs enfants pour en faire une seule. Et ce qui est d'ailleurs assez drôle, c'est que parfois, lorsque des familles lisent le livre, ils me disent « Ah, mais là, cette histoire, je la reconnais ». Alors, c'est pas la leur, sinon ils le sauraient. Mais ils la reconnaissent, ils ont l'impression. Parce qu'effectivement, les histoires que je choisis sont des histoires les plus, en fait, celles où les plus, celles qui appartiennent au plus grand nombre, et donc tout le monde peut s'y reconnaître. Alors ça, c'est la première partie du titre, et la deuxième partie du titre, pour une société multiculturelle. Alors ça, cette idée-là, effectivement, c'est une idée plutôt d'engagement, et en ce sens, je suis d'accord que c'est de mes livres le plus politique, au sens qu'il présuppose ou qu'il imagine que ça va avoir des effets importants dans la société, à l'école, on va y revenir, mais aussi dans les quartiers et dans la construction du lien social. Alors, pourquoi multiculturel ? Eh bien, on est à un moment, et on le voit bien, pas seulement en France d'ailleurs, hein, dans la plupart des pays européens. Et je rentre des États-Unis et j'ai l'impression que les États-Unis sont en train de nous retrouver sur un certain nombre de ces questions-là. Donc je crois qu'elles appartiennent à de nombreux pays. L'idée que les voyages, les migrants sont de plus en plus nombreux. Je citais les chiffres. Dans bientôt, il y aura sur Terre, hein, plus de gens qui quittent l'endroit où ils sont nés pour vivre que des autochtones, c'est-à-dire que des gens qui vont rester au même endroit. Les culs de plomb, là, comme disait Victor Hugo, ceux qui ne bougent pas. Hein. Eh bien, ces autochtones qui restent fixés à leur terre et qui ont la chance, sans doute, même si voyager, ça peut être aussi une grande chance, mais ceux qui n'ont pas à se poser cette question-là et qui restent donc au même endroit, eh bien, bientôt, les autochtones seront moins nombreux que les migrants, que les voyageurs. Donc, ce qui veut dire qu'un jour, la clinique transculturelle sera la norme, puisqu'il y aura plus de voyageurs que d'autochtones. Donc, blague à part, ça veut dire que cette question est une question qui concerne énormément de monde. Et donc, faut-il imaginer que, effectivement, lorsqu'on quitte son pays, qu'on fait naître et grandir des enfants ailleurs, on va abandonner la mémoire, la langue, tout ce qu'on amène dans nos valises, ou alors, est-ce que c'est nécessaire et puis est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que si j'abandonne ma langue, ma mémoire, est-ce que ça va me faire du bien? Est-ce que ça va faire du bien à mes enfants? Est-ce que ça va les aider à mieux apprendre la langue seconde, etc., à mieux vivre dans le monde d'ici? Alors ça c'est un modèle qui, me semble-t-il, est en train de devenir un peu caduque, c'est-à-dire que cette idée d'une société qui se construit par effacement, hein, on efface ce que j'amène avec moi, je l'efface le plus vite possible, le plus violemment possible, et je deviens un enfant adopté de l'autre monde. Ou est-ce que, et c'est le modèle de la société multiculturelle, je garde avec moi des éléments, pas forcément tout évidemment, mais des éléments qui vont me permettre d'être meilleur parent, de bien me sentir, d'être meilleur parent, de mieux faire grandir mes enfants, de permettre à mes enfants d'investir, d'avoir le désir de langue, de langue seconde. Est-ce que, donc dans ce modèle, qui est le modèle multiculturel, c'est plutôt donc cette idée-là que tout ce que je vais vouloir garder et que je serai autorisée à garder par la société d'accueil, tout ça va nourrir mon élan vital dans ce nouveau monde. C'est-à-dire tout ça va me permettre d'avoir des enfants qui, effectivement, non seulement apprennent la langue maternelle, mais ont le désir de la langue seconde, ont le désir de s'inscrire à l'école, dans le lien, se reconnaissent Et toutes les études, effectivement, mais pour voir les résultats des études, il faut aller au-delà des préjugés. J'ai analysé longuement l'étude sur la réussite des enfants de migrants à l'école en Europe. C'est une étude qui est extrêmement, et pourtant elle est faite de manière extrêmement rigoureuse et par plusieurs équipes européennes. Que d'ailleurs moi je ne connais pas, ça a été fait pas par des cliniciens mais plutôt par des gens des sciences de l'éducation qui ont pris les études cliniques, mais c'est eux qui ont organisé l'étude. Eh bien, c'est pour voir les résultats de ces études, souvent il faut aller au-delà de nos préjugés, c'est-à-dire nos préjugés qui jusqu'à maintenant nous ont toujours ont fait qu'on voit la langue maternelle des enfants. Quelles que soient les raisons pour lesquelles ils ont une autre langue maternelle que la langue extérieure, comme un obstacle, que cette diversité des langues maternelles nous pose problème, hein. C'est-à-dire on se dit comment on fait quand dans une classe on a 10 langues maternelles différentes, ça peut arriver. Dans les endroits où il y a des familles migrantes qui viennent du monde entier. Comment on fait ? C'est-à-dire, bien sûr, la question, ce n'est pas que l'école se mette à enseigner les langues maternelles des enfants, mais qu'elle autorise, que la société autorise le fait que cette langue soit transmise par leurs parents et par des institutions autour. Ce qui, pour l'instant, est assez difficile. Donc, c'est vraiment une question symbolique, c'est-à-dire d'autoriser la transmission de la langue et de ce qui va avec. Et surtout, de ne pas oublier que ces enfants, le français est une langue seconde. C'est-à-dire, même si on ne s'intéresse pas à ce qui est transmis à la maison, Si on oublie que ces enfants, pour ces enfants, le français est la langue seconde, on met ces enfants dans une situation où ils devront eux-mêmes faire ce travail d'effacement, parce que là, il n'y aura pas du tout de reconnaissance, non pas du contenu, mais de l'idée de langue maternelle et de la transmission des parents. D'où d'ailleurs pour moi mon insistance à recueillir et à donner toute leur place aux paroles des parents et aux paroles des enfants, parce que c'est assez rare que ces familles aient vraiment la parole, que leur parole soit considérée comme une sorte de parole précieuse, irréductible, dans laquelle on apprend quelque chose, que ce soit une parole qui nous fait du bien. D'ailleurs, quand moi je donne le livre aux parents de ceux qui m'ont autorisé à raconter leur histoire, c'est toujours ce qu'ils me disent. Ils me disent, mais quand ils voient la forme écrite comme ça, ils me disent, mais comment ce que nous pensons, ce qui fait nos idées, nos pensées, comment ça va intéresser les autres, hein, comment ça va intéresser. Et souvent, c'est une sorte de doute. Je crois qu'ils me sont, en tous les cas, ils me disent combien ils sont étonnés de cette idée-là, parce que notre société, dans la notion d'accueil que tu soulignais, Claire, ne laisse pas assez de place à ça, à cette transmission-là. Donc, d'où ce titre donc de la société multiculturelle, c'est-à-dire d'une société qui ne considère pas que la notion d'accepter les histoires collectives et les trajets des familles migrantes, ça serait mettre en danger, avec cette fameuse peur que nous avons des communautés. Hein, nous avons peur des communautés. Alors du coup, d'abord on dit qu'il n'y en a pas et on ne favorise pas du tout les liens de solidarité entre les gens qui arrivent. Et deuxièmement, de temps en temps, moi je vois des lieux de retirement. Par exemple, quand je vois dans les écoles du nord de Paris où on fait une étude sur le bilinguisme, je vois des classes entières d'enfants où il n'y a que des migrants. Et maintenant, presque plus que des Africains d'Afrique noire. Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, c'est-à-dire c'est les nouveaux arrivants. Il n'y a plus que dans certaines classes publiques du Nord, je ne dis même pas de Seine-Saint-Denis, du Nord de Paris. Ça veut dire qu'il y a bien eu des concentrations d'enfants. Donc on dit qu'il n'y a pas de communauté, mais au fond, puisqu'on justement on a peur de ce modèle, du coup. Elles se font, mais d'une certaine façon, par la stigmatisation sociale, par le retirement, par le rejet, et elles se font dans des conditions sociales assez, assez déplorables, quoi, où on va se retrouver avec des classes qui sont effectivement très peu métissées. Donc, c'est vrai que moi, je plaide pour un modèle où on accepte cette créativité de la multiplicité, quoi, multiplicité de langues, multiplicité d'histoires. Et avec quelque chose en commun, par contre, c'est que justement, à partir du moment où on reconnaît ces histoires et ces langues, d'où mon intérêt pour la langue des enfants, la langue maternelle des enfants, eh bien, ça favorise cette reconnaissance de ce qui nous appartient à l'origine, fait que on est plus fort, on est capable de lien avec les autres, on est capable de désir de langue, et c'est comme ça d'ailleurs que, par exemple, nous on s'occupe de l'échec scolaire. Des enfants de migrants en échec scolaire, en grande section de maternelle, mais surtout au CP, c'est surtout au CP qu'on s'en occupe, eh bien, une des manières de faire, c'est de renforcer leur intérêt et la reconnaissance de leur langue maternelle, tout simplement. C'est-à-dire, même si on ne connaît pas la langue, on présuppose que les enfants ont une langue maternelle et on va jouer avec ça. Et on va faire des allers-retours entre la langue française et la langue maternelle. On va comparer. D'ailleurs, c'est l'enfant à ce moment-là qui devient l'informateur. C'est lui qui sait, puisque la maîtresse à ce moment-là ne connaît pas forcément le sousou, le soninké ou le chinois mandarin. Mais l'enfant, lui, il le connaît, le mot, il peut le comparer, il peut dire, tiens, ça c'est pareil, ça c'est pas pareil. Ah ben, il y a un mot pour dire bébé dans ta langue, en français, il y a un mot pour dire bébé, ben, en chinois mandarin, il n'y en a pas. Il y a un mot pour dire adolescent en français, ah ben oui, mais en sousou, il n'y en a pas. Mais c'est très intéressant, parce que de voir que les mots correspondent à des catégories, il y a un article pour dire dessus, dessous, ah ben oui, ben dans ma langue, il n'y en a pas, parce que ça n'existe pas, l'extérieur. Il n'y a pas de mot pour dire, dessous, dessous, oui, mais pas dedans, dehors. Il n'y a pas d'extérieur. Donc, dans ces ateliers qui sont les ateliers qu'on appelle, nous, les ateliers du conte bilingue, des contes bilingues, les enfants deviennent des apprentis linguistes, quoi. Hein, ils vont, par exemple, ils sont en difficulté pour la notion d'implicite. Hein, il y a parfois des enfants, quand les enfants ont le français en langue seconde, moi je me souviens, moi j'ai appris le français à 6 ans. Je me souviens très bien de cette difficulté des implicites. C'est-à-dire que si vous apprenez le français à l'école, vous apprenez le français de l'école. Mais après, tous les implicites, tout ça, des enfants dans la cour d'école, moi, je ne comprenais pas pendant qu'elle... Je me souviens très bien, les enfants disaient que j'étais une enfant trop sage et tout ça, j'étais pas sage du tout, mais je ne comprenais pas leur sous-entendu. Hein. Du coup, je faisais pas les bêtises en même temps, je percevais pas tout de suite. Bon, mais j'ai vite compris, évidemment. Mais ces niveaux-là, lorsque le français n'est pas votre langue seconde, n'est pas votre langue première et votre langue seconde, effectivement, il faut les apprendre, et il faut les apprendre aussi en les comparant à sa langue maternelle et en ayant une représentation positive et bonne, suffisamment bonne, diraient les psys, de sa langue maternelle. Parce que dans les études sur la réussite des enfants, ce qui a été montré, des enfants de migrants, ce qui a été montré, c'est que c'est pas seulement le fait de bien connaître sa langue maternelle. Malheureusement, la plupart des enfants connaissent pas bien leur langue maternelle. C'est le fait, parce qu'on le favorise pas du tout en France, hein, contrairement en Angleterre, par exemple. Mais par contre, ce qui est corrélé avec la bonne réussite des enfants, et avec un bon fonctionnement psychique d'ailleurs, c'est une représentation bonne de leur langue maternelle. Hein. Donc, pas même s'ils ne la connaissent pas, qu'ils en ont une représentation comme un élément positif. Alors, c'est pour d'où mon intérêt est dans ce livre et où j'ai effectivement analysé et repris un certain nombre de choses sur les langues, y compris donc dans nos propres études. Parce que je crois que la langue est le vecteur privilégié pour justement construire une société qui laisse un petit peu de place à cette créativité, à cette diversité. Et pour dire vrai, mais ça je l'ai pensé après en fait, mais après ce livre, mais je pense que qu'est-ce qu'on peut transmettre lorsqu'on est loin de chez soi ? On peut transmettre la langue, on peut transmettre la religion, on peut transmettre quoi ? La cuisine, des rituels, mais souvent liés à la religion. Oui, alors la musique, tout à fait, la musique, les arts, des choses, la musique ou d'autres, mais la musique tout particulièrement. Et bon, on peut, mais vous voyez, il n'y a pas énormément de choses qu'on peut transmettre lorsqu'on est tout seul. Hein, parce que je vous rappelle que la transmission, surtout dans notre modèle, où c'est un modèle où il faut activement rechercher des liens sociaux, mais il n'y a pas une communauté constituée. Et donc, on transmet quand même beaucoup dans la solitude. Il n'y a pas d'autre pour dire, ben oui, ça se chante comme ça, ça se fait comme ça, ça se raconte comme ça. Ou pour entendre le même conte qu'on a entendu de la bouche de sa mère, qu'on l'entende aussi de la mère du petit copain. C'est ça en migration, ça se passe pas toujours comme ça parce qu'il y a une plus grande solitude. Eh bien, il n'y a pas énormément de choses qu'on peut transmettre quand même. Et parmi les choses les plus transmissibles, c'est la langue. Et la langue, elle se bat avec sa cousine qui est la religion, je pense. Et ça se discute. Qu'est-ce qui permet justement d'accéder aussi bien à la religion, aux arts, à la philosophie et même aux recettes de cuisine ? Je pense que la langue fait partie de ce média-là qui permet le plus finalement de liberté aux enfants, alors que d'autres peuvent éventuellement plus les contraindre en tous les cas à des représentations ou à des manières de faire. Donc voilà la question de la langue. Alors la troisième question, est-ce que tout ça, tu disais peut-être que ça présuppose une sorte de révolution. Alors le mot est sans doute trop fort, sauf si on l'entend au sens d'une révolution intime, c'est-à-dire d'une révolution de nos positions, de nos pensées. Vis-à-vis de toute de l'autre et de l'altérité. Les poètes et les romanciers, mais tout particulièrement les poètes qui sont souvent en avance sur nous, ces poètes qui ont été nourris par les créoles, sur cette question de la révolte, ils ont souvent des images qui, moi, me paraissent vraiment intéressantes, que j'ai d'ailleurs beaucoup utilisées dans ce livre, qui sont le fait de se construire un imaginaire de la diversité, nous-mêmes. C'est-à-dire que pour que la société laisse de la place à chacun, quelle que soit son histoire culturelle, quel que soit son voyage, quel que soit le chemin de ses parents et tout ça, quelles que soient les langues qu'on parle, peut-être faut-il qu'on soit capable justement d'abord de ne pas sentir menacé par cette diversité. C'est la première étape et on voit bien dans un certain nombre de réactions, dans un certain nombre, le fameux débat sur l'identité nationale. C'était pour moi une marque de ces craintes sans doute infondées, mais de ces craintes qu'on peut transformer en problème majeur. Donc de ne pas se sentir menacé dans son identité, mais au contraire, comme dit par exemple Chamoiseau, de l'idée qu'on est dans un modèle de société où on change, on est en train de changer. Mais en s'échangeant, en ayant des échanges entre nous et pas en imposant ce que serait que l'identité comme une sorte de substance d'or ou de cuivre qui nous tomberait dessus et qui serait le moule de l'identité, hein, quelque chose de figé et que quelqu'un définirait à l'avance. Non, c'est un processus de changement. Mais c'est vrai que pour donc ça c'est la première étape, ne pas se sentir menacé par ces changements, par ces apports, par cette diversité, mais au contraire y participer activement, donner envie. Moi je me souviens une des choses qui m'émeuvait quand j'étais enfant, qui vraiment me touchait, et je rentrais chez moi et je racontais toujours ça à ma mère, c'était j'ai vu tout ça particulièrement chez les instituteurs que j'ai eus, mais chez d'autres personnages de la société française aussi, mais cette envie qu'ils avaient que l'on partage ce qu'ils considéraient comme beau, hein, comme bien, comme beau, ce désir qu'ils faisaient passer. Et c'était pas je vais vous imposer ce que c'est que l'identité française, mais je vais vous donner envie de goûter ça, hein, je vais vous donner le goût du miel, quoi, je vais vous donner envie de goûter telle chose. Et ça me touchait beaucoup, et effectivement comme ça touche, je pense, toujours les migrants et les enfants de migrants, parce que c'est ce processus-là. Lorsqu'on migre, on sait qu'on doit changer, on sait qu'on se transforme. Mais on se transforme par le désir, par l'échange, et pas par quelque chose d'une sorte de violence qui vous abraserait, qui vous rendrait avec des hiérarchies entre les bons, les mauvais, les vrais, les pas vrais, les vrais de double et les vrais simples. Enfin, vous voyez, où on peut faire des hiérarchies complètement folles, mais qui les vrais qui parlent bien la langue française, et puis ceux qui on ne sait pas pourquoi ne pourraient pas accéder à cette belle chose de parler cette langue française. Donc, vous voyez, en ce sens, ça présuppose une révolution dans nos positions, et après, avec ce qui en découle dans nos méthodes pédagogiques, parce que si on revient quelques instants sur l'école, il est clair qu'il ne s'agit pas à l'école, on apprend la langue française et les savoirs français, mais on apprend ces socles-là, enfin qu'on apprend ces savoirs-là en s'appuyant sur un socle, et ce socle, c'est ce qui est transmis par les parents. Et donc, d'accepter la notion de diversité, non pas pour remettre en question le modèle de transmission, mais pour faire que justement, on ne renonce pas à transmettre, et que les enfants puissent se métisser, en fait, hein, prendre des mondes qui leur appartiennent. Donc, peut-être que dans ce sens-là, c'est une révolution, en tous les cas, c'est une révolution aussi très pragmatique, au sens où c'est parce que ça marche à l'école, parce que ça fait du bien dans le soin, et parce que ça renouvelle nos questions sur l'identité, sur le lien social, que ça me passionne, et que je voudrais effectivement que ces éléments, qui sont des éléments qui viennent du monde clinique, du monde du soin, appartiennent à l'ensemble de la société, et qu'ils contribuent de manière tout à fait concrète à faire en sorte que non seulement on accueille mieux, on comprenne mieux et on vive mieux ensemble, mais qu'en plus on crée une société qui ressemble à ceux qui la composent, c'est-à-dire qu'elle soit diverse, qu'elle laisse de la place à des différences, et qu'elle permette que que aussi ce qu'on apprend dans ces différentes disciplines, en particulier dans les sciences humaines et en médecine, servent à tout le monde. Et en ce sens, je me disais, là aussi un peu après, même si j'ai utilisé certains de leurs travaux, mais dans la réflexion qui continue sur ces questions, je me disais que ce que nous on dit, par exemple à partir de l'histoire des enfants de migrants, et de leurs besoins. On le retrouve chez un certain nombre de sociologues actuels, par exemple Pap Ndiaye ou Éric Fassin, qui travaillent sur les constructions identitaires ou actuelles, et qui insistent sur le fait que se poser des questions d'identité sur l'autre, sur les minorités, par exemple pour Pap Ndiaye, c'est travailler sur les minorités, sur comment on se construit, comment les adolescents, comment les adultes se construisent lorsqu'ils appartiennent à des minorités, et que ça se voit, hein, parce que c'est cette question-là, de la stigmatisation aussi, et du rejet. Eh bien, lorsqu'on travaille là-dessus, aussi bien Pap Ndiaye qu'Éric Fassin, pour travailler là-dessus, pour eux, c'est en fait travailler sur notre modèle de société, c'est-à-dire le type d'interaction, le type de société qu'on veut construire, parce que c'est toujours pareil, c'est la fameuse question entre les marges et le centre. Le fait de savoir quel type de lien, quel type de place il y a pour chacun, c'est permettre en fait de c'est dire aussi qu'est-ce qui fait le cœur de notre société, qu'est-ce qui fait le lien dans la société. Et ce qui fait le lien, c'est pour des sociologues comme ceux que je viens de citer, ou pour nous, c'est l'idée d'un lien à l'autre qui soit un lien symétrique, d'échange, où il n'y ait pas de hiérarchie, et où on abrase, où la violence, parce que moi, et ça sera ma conclusion pour vous laisser poser des questions, c'est que au fond, et c'est un mot que j'ai pas encore prononcé, pourtant il est important, c'est que si ce modèle-là est important, bien sûr, moi je suis très sensible à la souffrance individuelle que ça comporte lorsque on abrase comme ça l'identité des autres. Mais il y a aussi autre chose qui doit nous intéresser, je pense, en tous les cas moi qui m'intéresse, c'est aussi la violence que ça génère. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas de reconnaissance, pas de lien, pas d'altérité reconnue, eh bien c'est comme si on se construisait une violence potentielle. Enfin, on risque de rentrer dans des interactions qui génèrent de la violence contre soi et contre les autres. Et évidemment, ces personnes ne voudraient ça, d'où l'intérêt et l'importance de ce qui vient des sciences humaines et des métissages, qu'ils soient théoriques ou humains. Voilà.
Merci pour tout ça. Hein, on va devoir s'arrêter. Et puis voilà, lisez le livre de Marie-Rose Moreau si vous voulez approfondir toutes ces questions-là. Voilà.
Merci. Au revoir. Merci beaucoup.